Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Patara, le débat politique de Radio Ndikiluka. Aujourd'hui, nous débattons de la déchéance de l'ancien député de la deuxième circonscription du troisième arrondissement de Bangui par la Cour constitutionnelle. Abdou Karim Mikasoua a été destitué le 12 août par la Cour constitutionnelle. Cette haute juridiction du pays l'a déclaré complice de la coalition des patriotes pour le changement CPC, un regroupement des groupes armés qui veulent renverser le pouvoir. C'est désormais son challenger Ibrahim Ould Alissène Algoni du parti au pouvoir MCU qui est déclaré député à sa place. Déchéance à la suite d'une requête introduite auprès de la Cour constitutionnelle par Ibrahim, comme je le disais tantôt, Alissène Algoni, fondée sur un rapport d'experts indépendants de l'ONU citant Abdou Karim Mikasoua parmi les instigateurs de la rébellion CPC. Il est aussi reconnu responsable du retour au bercail en cachette de l'ancien président François Bozizé, actuel chef de file de la rébellion CPC. En octobre 2018, on rappelle, Abdou Karim Mikasoua avait été déjà destitué du perchoir de l'Assemblée nationale par ses collègues députés. Question, Monsieur Mikasoua a été officiellement investi député, mais pourquoi sa destitution ne relève pas de la compétence de l'Assemblée nationale? Est-ce que son immunité parlementaire a été levée avant qu'il ne soit destitué? La Cour a-t-elle fait son travail dans le respect des règles de l'art? Est-ce un acharnement politique contre celui qui est considéré comme l'un des poids lourds de l'opposition démocratique? Voilà tant d'interrogations qui guideront notre débat du jour. Et justement, je reçois sur ce plateau du studio B de Radio Ndekeluka, Paul Cressan-Beninga, bonjour.
Bonjour.
Docteur en sciences politiques, porte-parole du groupe de travail de la société civile GTSC, maître Arlette Somodibele, bonjour.
Bonjour.
Merci. Vous êtes avocate de l'ancien député Abdou Karim Mikasoua, ancienne ministre de l'Environnement, et Alexine Diouya-Bella, bonjour.
Bonjour.
Constitutionnaliste et proche du pouvoir, vous êtes aussi ancien directeur de l'ENAM. Messieurs, merci d'être venu. Tout de suite, nous lançons le débat.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
Voilà, lançons le débat avec ce compte-rendu de Igor Jeskansenapai sur l'audience de la destitution de l'ancien député de la deuxième circonscription du troisième arrondissement de Bangui, Abdou Karim Mikasoua.
Abdou Karim Mikasoua a été destitué à la suite d'une requête introduite auprès de la Cour constitutionnelle par Ibrahim Ould Alissène Algoni, son challenger dans la deuxième circonscription du troisième arrondissement de Bangui. Le plaignant s'est fondé sur un rapport d'experts indépendants de l'ONU citant Abdou Karim Mikasoua parmi les instigateurs de la rébellion CPC. Les six juges qui ont siégé en audience publique sur le dossier ce matin ont validé la proximité de M. Mikasoua avec la CPC. Ils l'ont aussi reconnu responsable du retour en cachette en Centrafrique de François Bozizé sous sanction onusienne. Jean-Pierre Waboué, vice-président de la Cour constitutionnelle.
Considérant qu'au moment où la Cour rendait sa décision le 29 juin 2021, elle n'avait pas connaissance du rapport des experts du Conseil de sécurité et l'avis de poursuite judiciaire du cabinet d'instruction numéro 1. Qu'ainsi, le moyen soulevé étant d'ordre public, il y a lieu d'invalider les résultats obtenus par Mikasoua Abdou Karim aux élections législatives partielles du 23 mai 2021 et de prononcer sa déchéance conformément aux dispositions de l'article 141 du Code électoral. Considérant qu'en conséquence de cette déchéance, le candidat Ibrahim Al-Hissène Al-Ghoni, qui a obtenu 1302 voix, soit 38,38%, est déclaré élu.
Nous venons d'assister à une forfaiture, déclare à sa sortie d'audience Arlette Sombo-Dibélé, avocate d'Abdou Karim Mikasoua.
Monsieur Al-Ghoni a saisi la cour d'une requête qui a été examinée sous toutes ses coutures et cette requête a été rejetée dans les délais constitutionnels. Aujourd'hui, hors délai et sous le prétexte d'une institution qui ne relève pas de la compétence de la Cour et le terme même est illégal en ce qui concerne un député, vous venez d'assister à ce que j'appelle une forfaiture. Vous venez d'assister à une cour qui s'est fait harakiri, se privant des prérogatives, des privilèges que la Constitution elle-même lui attribue. Constitution votée par voie de référendum majoritaire où le peuple sud-africain s'exprimait. Aujourd'hui, c'est très grave. N'importe qui peut remettre en question une décision de la Cour constitutionnelle.
Abdou Karim Mikasoua avait été réélu député de la deuxième circonscription du troisième arrondissement de Bangui à la suite des élections partielles du 23 mai 2021. Cette destitution est en effet un double choc dans son parcours parlementaire.
L'audience lettre ouverte.
Voilà. Mais ici, on continue le débat encore. Merci beaucoup à vous, Igor Jaskansinapai, Maître Sombodibele. Vous avez déclaré, je cite, vous venez d'assister à une forfaiture. Pouvez-vous nous expliquer davantage?
Écoutez, j'ai pu le dire parce que j'ai traité le dossier. Hein. Lorsque la Cour constitutionnelle avait été saisie par M. Algoni, c'était une demande de destitution. Et les éléments à l'appui de cette demande étaient le rapport du groupe d'experts des Nations Unies et l'avis de poursuite judiciaire. Et la demande de M. Algoni se fondait sur des textes qui entraient au contrôle de constitutionnalité. Vous avez dit qu'on ne va pas rentrer dans la technique pure, mais on va essayer d'éclairer la lanterne du citoyen lambda. C'est la requête d'Algoni qui avait été rédigée par mon brillant confrère Maître Maïtovo, qui disait que elle se fondait sur le fait que la Cour est chargée de juger de la constitutionnalité des lois organiques ordinaires déjà promulguées ou simplement votées, des règlements ainsi que des règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et nous sommes restés sur ces textes visés par le requérant. En outre, le requérant estimait que l'honorable Mikasua avait une moralité douteuse du fait qui avait été livré dans le rapport le témoignage de M. Ali Darassa. Parce que si vous lisez ce rapport, c'est uniquement M. Ali Darassa qui dit que nous savons que M. Mikasua était derrière, c'est lui qui a même contacté pour que ceux du Soudan, enfin bref, pour ce qui nous concerne, le témoignage de M. Ali Darassa, dont on connaît la grande réputation, il est étonnant quand même qu'une cour constitutionnelle qui statue au vu de preuves tangibles puisse s'asseoir sur un tel témoignage, d'autant plus que ce rapport, nous l'avons dit, avait été rejeté par toutes les autorités de la place pour ce qui concernait les faits qui étaient reprochés tant à certains Fakas, à certains Russes, et donc ce rapport n'était pas admis par les autorités pour juger de ceux qu'il protège, mais lorsqu'il s'agit de livrer M. Mikasua, comme il faut trouver tous les moyens, ce rapport devient parole d'évangile.
Et donc vous persistez et vous signez ce que vous avez affirmé à la sortie de cette audience, que c'est une forfaiture.
Mais je le garde, je persiste, je signe, d'autant plus que, pour vous dire lapidairement, il est prévu à l'article 87 de la loi organique sur la même cour qu'en cas d'annulation de tout ou partie des élections, le corps électoral est convoqué par décret pris en Conseil des ministres dans un délai de 45 jours au moins, 90 jours au plus, sur proposition de l'autorité nationale des élections. Est-ce que c'est ce qui a été fait? La déchéance pour la cause qui a été invoquée conduit forcément à une annulation. Alors la Cour dit une chose, mais elle en fait une autre. Et nous disons que M. Algoni, avec 38% de voix, n'a pas été élu, mais il a été nommé par la Cour constitutionnelle, imposé à l'électorat du 3e arrondissement, 2e circonscription.
On y revient un à un, comme vous l'avez déjà dit, M. Ndui, la Cour constitutionnelle est gardienne des principes et des règles fondamentaux de droit. Peut-on parler d'une forfaiture à ce niveau?
Je salue le point de vue exprimé par Maître Sombodibele. C'est une institution de la République, une juridiction spéciale qui a ses attributions fixées dans la Constitution. J'ai d'interpréter la Constitution qui est juge du contentieux électoral. Bon, maintenant, le décor a été planté. Une affaire saisie par une requête Algoni et qui reproche aux députés sortants. Un certain nombre de comportements contraires aux principes démocratiques. Moi, je suis respectueux des décisions rendues par les juridictions. La Cour constitutionnelle a compétence de se prononcer sur le contentieux électoral. Alors maintenant, comment nous venons convier ici, comment doit-on apprécier cette décision de la Cour constitutionnelle? Est-ce qu'on doit se placer sous l'angle technico-juridique, c'est-à-dire que tu es interpellé, dire voilà, c'est uniquement la pure application de la règle de droit? Ou alors on est bon, on fait appel à la technique politico-juridique, où il faut faire prévaloir les considérations politiques pour interpréter cette décision. Maître, elle est juriste. Christian Bininga, bon, politologue. Et puis bon, ben, on est là rassemblés pour essayer de réfléchir et éclairer la lanterne des uns et des autres. À l'appui de la requête de M. Algoni, elle a évoqué un certain nombre de rapports. Alors, tout à l'heure, Maître Sombodibri a dit non, ce n'est pas, je ne sais pas reconnu, ça a été contesté par le gouvernement. Soit, un rapport contesté par le gouvernement devait empêcher M. Algoni de s'en prévaloir pour obtenir un certain nombre de droits. Voilà, ça, c'est la question que je me pose. Et d'autant plus que, vous voyez, on est devant une juridiction et les parties en cause doivent mobiliser les moyens de preuve à leur disposition pour emporter la conviction du juge. Le rapport, est-ce qu'on doit accorder une valeur juridique ou non juridique à un rapport? Les moyens de preuve ne sont pas limitativement délimités, je l'ai dit sous le contrôle de Maître Mbo. Les moyens de preuve sont diversifiés, vastes. Il n'y a pas de limite. Et donc, si Algoni a invoqué ce moyen, c'est un rapport, et que je le dis, c'est
et
un rapport publié par les Nations Unies, et diligenté par des officiers, je le dis, comme vous m'avez dit tout à l'heure, DG de l'ENAM, j'ai travaillé avec les officiers de droits de l'homme. C'est des officiers assermentés, envoyés pour le compte des Nations Unies, et puis ils ont un mandat dans le cadre des Nations Unies de mener des enquêtes sur les violations.
C'est Mais est-ce que ce rapport est suffisant pour accabler, par exemple, Abdou Karim Mekassoua par la Cour constitutionnelle?
Je dis que c'est suffisant, c'est un rapport, c'est un document. En tant qu'intellectuel, juriste et puis chercheur, c'est un document officiel de source internationale. Quand on élabore et qu'on rédige un mémoire, il y a des documents de source internationale, officiels. Je dis documents officiels de source internationale, conçus par les rapports des systèmes des Nations Unies, des organisations internationales, etc. Et il y a les documents officiels de source interne, les rapports techniques produits par les ministères, etc. Est-ce qu'on ne doit pas y accorder un crédit? Et je dis, en ce qui concerne ce rapport, ça émane des officiers de droits de l'homme. Même si le gouvernement critique, mais le gouvernement, bon, c'est une stratégie politique par rapport à certain nombre de points. Est-ce que ça devait empêcher un citoyen lambda d'évoquer ce rapport-là pour obtenir satisfaction auprès d'une juridiction? C'est la question dans ce point.
On y revient, oui. Monsieur Paul Christian Beninga, sur cette question de décision d'Abdou Karim Mekassoua par la Cour constitutionnelle, quel est donc votre point de vue, vous, de la société civile, vous composez du groupe de travail de la société civile GTSI?
Écoutez, je vous remercie, Armando, de me convier à ce débat. Je dois dire que ce débat, malheureusement, va être éminemment technique. On fera l'effort simplifier le discours pour permettre également aux centrafricains lambda de mieux comprendre les enjeux. Mais c'est un débat éminemment technique.
Oui, ça,
et les questions ont été abordées aussi bien par Maître Sombo Djibélé que par le professeur Ndiabla. Je dois dire ici que la première question qui m'est venue à l'esprit lorsque Abdou Karim Mekassoua a été destitué, en lisant l'arrêt rendu par les juges électoraux, c'est celle qui suit. Quelle est la valeur juridique des rapports commis par un groupe d'experts fut-il des Nations Unies? Quelle est la valeur juridique de ce rapport? S'agit-il d'un rapport d'enquête judiciaire? S'agit-il d'un rapport d'enquête de terrain? Ma foi, sauf si je me trompe, il s'agit bel et bien d'un rapport d'enquête de terrain. La deuxième question qui m'est venue à l'esprit, c'est celle de dire que ce rapport doit-il lier la volonté des juges de la Cour constitutionnelle qui agissent à ce moment-là comme étant des juges électoraux? Ce rapport doit-il motiver la conviction, ça a été évoqué par le professeur Ndiabla, des juges de la Cour constitutionnelle? J'ai peur parce que lorsqu'on fait une analyse sociopolitique des réactions, aussitôt après la publication de ce rapport, on se rend compte que ce rapport a été globalement rejeté, aussi bien par le pouvoir législatif que par le pouvoir exécutif. Et je suis d'accord lorsqu'on dit que ça ne doit pas obliger le pouvoir judiciaire d'emboîter le pas à ces deux pouvoirs précités. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est que c'est extrêmement difficile pour moi de comprendre que sur la base d'un rapport d'enquête de terrain, les juges destituent un élu de la nation. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que ça va créer des précédents. Ça va créer des précédents. Et il y a un enjeu. Lorsqu'on va dans le fond de ce rapport, on se rend compte que les témoignages qui sont prononcés et qui ont été repris dans ce rapport on peut également les remettre en cause. Ce d'autant plus que lorsque on voit comment est-ce que l'UPC est en train de faire des yeux doux aujourd'hui au gouvernement pour revenir dans l'accord politique pour la paix et la réconciliation, on peut effectivement émettre des doutes. Ça, c'est le premier point en ce qui concerne la décision. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle le principe de la bonne moralité. Et je l'ai déjà dit, je me suis prononcé sur cette question sur les ondes de la radio de Keluka. Ce principe de bonne moralité, repris dans la constitution du 30 mars 2016, donne un pouvoir trop large, je pèse mes mots, au juge constitutionnel. Et ça fait en sorte que, je me pose naïvement la question, sur quelle base le juge peut juger de la bonne ou de la mauvaise moralité d'un centrafricain? C'est extrêmement important de mon point de vue parce que le dernier point, c'est la question de la légitimité du candidat déclaré élu après la destitution du président, du député du 3e arrondissement.
Abdou Karim Kassoua.
Oui, il a été légalement battu. Il y a un article qui a été cité ici par Maître Sombo Dibélé. En réalité, lorsque le candidat a été destitué...
Légalement élu. Hein.
Non, je parle légalement battu. Je parle de celui qui a introduit la requête.
Ah oui, vous voulez parler de Al-Goni.
Oui. Et donc, si jamais on en vient à destituer un élu de la nation, naïvement, je suis de ceux qui pensent qu'il faut procéder à la réorganisation d'une élection partielle.
Comme le dit la Constitution.
Dans la circonscription du 3e arrondissement. Et à partir de ce moment-là, celui qui va être déclaré élu bénéficiera ou jurera d'une légitimité et le débat est clos. Donc voyez-vous, ce sont ces trois questions-là qui me viennent à l'esprit. Légitimité, la nature du rapport et la question de la bonne moralité.
La bonne moralité. Mais avant de vous donner la parole, Madame Sombo Dibélé, je reviens vers vous, Monsieur Ndjouyabela. Est-ce qu'une enquête du terrain ou bien un rapport du terrain peut servir des éléments ou bien peut servir d'un élément fort pour que les juges puissent dire le droit?
Oui, ça c'est une preuve parfaite, comme le dit en droit. C'est une preuve écrite en matière, vous voyez, les parties à un procès
ne se sont pas associées déjà.
Écoutez, les parties à un procès peuvent les mobiliser et parmi les moyens de preuve, on a une preuve écrite. Lorsque ce conseiller dans un document reconnaît tel individu a participé à une entreprise de déstabilisation, consigné, c'est une preuve écrite. Et je dis, c'est un rapport des Nations Unies est un document officiel. Si c'est écrit, le juge, ou pas le juge, mais c'est une partie qui peut se fonder sur son document, pour le dire. Bon, alors, parmi les éléments, il y a les preuves écrites, il y a aussi des preuves orales, il y a aussi des sortes et des aveux. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, en matière de preuves, il n'y a pas une liste limitative de preuves. Il appartient à chaque partie à un procès, je l'ai dit, de mobiliser. Alors, est-ce que vous dites, quelle est la nature? Est-ce que les preuves doivent avoir une nature juridique? Non. Qu'il y a une nature identifiée pour les preuves en matière? Non. Les preuves peuvent être peut-être historiques, géographiques, etc. Tous les moyens de preuve sont possibles devant un juge.
On écoute Maître Sombo Dibélé. Je vois, vous remuez la tête. Hein. Vous n'êtes pas tout d'accord par rapport à cet argument.
Je ne suis pas d'accord parce que,
moi non plus,
selon les termes même de la loi organique qui régit la Cour constitutionnelle, elle statue sur des éléments de preuve irréfutables. Et c'est totalement normal parce que vous avez quand même la vie de toute une population, le droit à l'élection de toute une population qui est en jeu. Voyez-vous, j'ai lu ce rapport et ce n'était pas une enquête de terrain où plusieurs personnes ont été interrogées, où on a trouvé des éléments. C'est, en ce qui concerne l'honorable Mikasoa, c'est le témoignage de Ali Darassa.
Seul.
Pour ce qu'il vaut, je vous laisse apprécier. Écoutez, moi je veux revenir sur la question de l'inéligibilité parce que c'était ça qui a été recherché. Hein. On a dit que du fait de sa moralité, Monsieur l'honorable Mikasoa n'est pas éligible. Et j'avais fait remarquer que la question de l'inéligibilité était révolue, il y avait forclusion. La Cour s'est attribué le pouvoir de statuer en disant que c'était un moyen d'ordre public. Soit un moyen d'ordre public parce que ça touche la question d'un crime imprescriptible. Mais est-ce que la Cour a pu statuer au vu de preuves? Parce que c'est également très, très grave d'accuser M. Mikasoa d'être auteur, complice ou auteur de crimes imprescriptibles. Lorsque dans le même moment, on sait que certains
co-auteur, certains auteurs, certains complices tombent sous le coup de l'article 28-29 de la Constitution. Alors pourquoi deux poids, deux mesures? Vous en avez sous le prétexte que oui, ils auraient signé des accords, ceux-là ils sont exempts. Ça enlève les crimes qu'ils ont commis, ça répare le mal, ça fait réveiller les morts, ça ressuscite les morts, ça soigne les blessés et ça paye ce qui a été extorqué aux gens. La question de l'éligibilité, j'en finirai là.
Oui.
Lorsque, en raison d'une condamnation définitive prononcée à son encontre, ou pour tout autre motif, moi, je laisse la question. La tête de M. Mikasso ne plaît pas aux gens, ok, on l'écarte. Mais maintenant, on déclare qu'il n'était pas éligible parce qu'on ne connaissait pas sa mentalité douteuse. Ok, l'article 88 de la loi organique de la Cour constitutionnelle stipule la constatation de l'inéligibilité, ça je réponds pour M. Cressan, d'un candidat et l'existence de candidatures multiples sont des causes d'annulation des élections. Donc, la Cour aurait dû dire les élections sont annulées.
Et on répond.
Les élections dans sa globalité ou bien dans
cette circonscription. Dans cette circonscription.
Oui,
et l'article 47 avant disait déjà, en cas d'annulation de tout ou partie des élections, nous sommes dans le cadre des partis, le corps électoral est convoqué par décret pris en Conseil des ministres dans un délai de 45 jours au moins et 90 jours au plus sur proposition de l'Autorité nationale des élections. Voilà pourquoi je dis que M. Algoni, avec ses 38% des voix qui ne rencontraient pas l'adhésion de toute la population de la troisième circonscription, du troisième arrondissement, a été nommé par la Cour constitutionnelle et non pas élu. Et ça, c'est extrêmement grave qu'une Cour elle-même saute à pieds joints sur des articles de la loi organique. Voilà, il y a
quelques secondes
à se demander pourquoi cette besogne a été menée si activement.
Monsieur Paul Cressan Beniga, vous voulez réagir tout à l'heure sur les propos de Monsieur Ndouya Bella qui argumentait la question des preuves.
Oui, non, en fait, il a évoqué la preuve écrite. Je pense que ce n'est pas une preuve écrite. Nous le savons, il y a l'écrit en droit comme preuve, il y a l'aveu, il y a le témoignage, il y a la présomption. Il y en a cinq hein, en droit civil. Mais en fait, il s'agit d'un témoignage. Et même là encore, il n'y a pas eu confrontation. Même là encore, il n'y a pas eu confrontation. Et dans ce rapport-là, les responsables, en fait, ou les auteurs de ce rapport sont allés plus loin pour dire que l'intéressé mis en cause par ce témoignage a renié, si vous voulez, les faits. Et donc, à partir de ce moment-là, du moment où les versions sont contradictoires, je suis de ceux qui pensent naïvement hein, que la Cour aurait dû ou pu dépêcher une enquête judiciaire. Et au sortir de cette enquête judiciaire, les conclusions lui donnent droit effectivement de statuer. Mais aucune enquête judiciaire n'a été réalisée. Et moi, je vais poser la question aux praticiens de droit qui sont là. En ce qui concerne le principe de bonne moralité, est-ce que ce principe est également imprescriptible? Parce que je n'arrive pas à comprendre. Aujourd'hui, on dit que Mekasoa est responsable du retour clandestin de Bozizé. Et ça a été évoqué dans ce rapport, ma foi. C'est depuis 2019 que Bozizé est sur le sol centrafricain. Et j'avais reproché cela à nos services de renseignement. En temps normal, des têtes devraient tomber. Bozizé est rentré en 2019. Aucune enquête n'a été réalisée jusqu'en 2021. Et on attend ce que un groupe d'experts des Nations Unies puisse rendre un rapport pour évoquer le principe de bonne moralité en ce qui concerne Mekasoa. Je pense qu'à un moment donné, j'ai envie de dire que cette décision est un peu tirée par les cheveux.
Monsieur Ndouya Bella, l'accusation portée contre le président du chemin de l'espérance est-elle grave? Si oui, comment?
Bon, je pense que dans la décision rendue par la Cour constitutionnelle, il y a eu un précédent. C'est pour ça que je dis, il faut que l'approche qu'on adopte en ce moment, comme l'a reconnu Christian, une approche technico-juridique. Et tout à l'heure, maître, en cas d'annulation, on reprend les élections. Oui, c'est ce qui est prévu par la loi. Or, dans le cas de figure actuelle, il ne s'agit pas d'annulation.
Or, ça...
Non, il s'agit d'une déchéance qui a été prononcée. Le mandat d'un député peut être écourté de trois manières: dissolution de l'Assemblée nationale, démission et déchéance. Et dans ces cas de figure,
On n'a pas dit si la déchéance est prononcée, il faut réorganiser. Non, si l'élection est annulée, ça c'est un autre vocabulaire, je dis, on réorganise les élections. S'il y a déchéance, bon, je pense qu'il n'y a pas de disposition pour vous dire comment il doit faire. Je pense que la Cour constitutionnelle a usé de son pouvoir pour dire maintenant on a organisé, c'est à l'issue du second tour, le candidat le mieux placé, qui a le plus grand nombre de voix en dehors du candidat Mekasua, c'est le candidat Algoni. C'est tout. Il n'y a aucune disposition prévue en la matière.
Mais, alors, on ne peut pas dire mais qu'il a été nommé. Pour cette raison, on ne peut pas dire que la Cour, les gens estiment le candidat, que Algoni a été nommé.
Nommé, non, mais c'est pas une nomination.
Pourquoi ne pas organiser une autre élection
dis,
après lui?
Est-ce que vous saisissez ce que je dis? C'est en cas d'annulation d'élection qu'on peut réorganiser. Là, c'est une déchéance. C'est pas, tout à l'heure, ce n'est même pas une destitution, on l'a dit tout à l'heure. C'est pas une, c'est une, la Cour constitutionnelle, puis c'est prévu par le texte, peut prononcer la déchéance. La cour... Et dans ce cas de figure, qu'est-ce qui a été prévu? Est-ce qu'il fallait procéder à un remplacement ou organiser des élections? Rien n'a été prévu dans ce texte. Et la Cour constitutionnelle a usé de son pouvoir parce que fabrication de la règle de droit, c'est comme même aux États-Unis, la Cour suprême a créé un précédent jurisprudentiel dans sa matière. Et pour dire, voilà, maintenant, plutôt que de l'aller réorganiser l'élection, celui qui est arrivé, il est proclamé automatiquement élu député. Voilà. Mais maintenant, je pense que là, il a soulevé...
Oui, vous n'avez pas encore répondu à ma question de...
Laquelle?
De l'accusation portée contre Abdou Karim Mekasua par rapport au rapport des experts de Nations Unies.
Mais juste, c'est un rapport, tout le monde a...
Est-ce que c'est, selon vous, cette accusation est grave?
Est-ce que c'est une accusation? C'est un rapport qui a été rédigé qui dit, qui indique que voilà, le Mekasua a participé à une entreprise de déstabilisation. Moi-même, conseiller du Premier ministre, ce rapport est arrivé au niveau de la primature, on l'a lu et puis on a formulé des observations, on l'a envoyé avant que ça ne soit publié. Voilà. Donc on a, ça a recueilli l'avis du pouvoir public, on a commenté et puis ce n'est plus. Mais si on dit que le gouvernement a critiqué, etc., est-ce que ça, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que ça va empêcher? Non, il faut, moi, à la lecture de cette décision, il faudrait qu'on n'induise pas les compatriotes en erreur. Il y a deux éléments de preuve. Mm-hmm. Premier élément de preuve, c'est le rapport qu'évoqué. Puis c'est Algoni qui s'est saisi du rapport. Et voilà, le rapport indique que c'est tout. On ne peut pas lui empêcher. C'est son droit le plus absolu. Voilà.
Vous je parlez de obtenir preuve tangible.
Les preuves, c'est pas preuve tangible, preuve parfaite. À partir du moment où c'est consigné par écrit, je dis, c'est des, ceux qui sont aux Nations Unies, ceux qui ont élaboré ce rapport, et je l'ai lu, avec la méthodologie. C'est une, à part, sur la base d'une enquête quantitative et qualitative. Il y a des échantillons de scientifiques qui ont été interviewés, tout ça pour asseoir et élaborer ce rapport-là. Et donc, on ne peut pas remettre en cause, je dis, c'est des officiers de droit de l'homme que je respecte. Oui. Et donc, en dehors de ce rapport, il y a aussi un aveu. Est-ce que, ben, je sais pas, quand on, il faut lire la règle, hein, j'ai lu, un considérant dit, lors de la séance du 22 juillet, hein, monsieur a affirmé avoir pris contact avec François Bozizé pour qu'il, quand il était en Kampala, afin qu'il revienne en République centrafricaine pour, je ne sais pas, mettre fin à sa souffrance. Ça, ce n'est pas moi qui le dis.
Et cela fait c'est de lui un criminel. La...
Hein?
Cela fait de
ça
lui...
fait, c'est inscrit, on dit, c'est un aveu, il dit, il a pris contact avec là pour abréger.
Mais sur le plan de prendre contact avec François Bozizé, pourquoi attendre longtemps
criminel.
Pourquoi attendre deux ans et demi, presque trois ans pour révéler cette situation
du
retour de l'ancien président?
On n'a pas attendu trois ans, cette révélation s'est faite le 22 juillet.
C'est une nouvelle infraction. Hein.
C'est le 22 juillet, il a pris contact. Puis voilà, donc c'est, ça qui
vous
a amené,
permettez.
C'est ce qui a amené la Cour.
Bah,
c'est pour ça que je dis, il y a deux éléments de preuve. Il y a le rapport, il y a un aveu.
Allez-y, monsieur,
si vous permettez.
Oui.
Il ne s'agit pas là d'un aveu. Et je vais vous dire pourquoi, en deux phrases. Il ne s'agit pas d'un aveu simplement parce que il n'a pas avoué avoir facilité la tâche à Bozizé pour qu'il soit sur le territoire centrafricain. Parce que ce qui lui a été reproché, c'est qu'il aurait facilité la tâche à François Bozizé de rentrer clandestinement en Centrafrique s'il avait avoué l'avoir fait. Ça, c'est un aveu. Il a dit, il a communiquer avec Bozizé, ça c'est différent.
Ce n'est pas un aveu.
Je reste avec vous, monsieur. Et même s'il dit que j'ai favorisé ou bien j'ai tout fait pour que l'ancien président revienne au pays, voilà. Est-ce que cela peut l'incriminer s'il dit c'est moi qui lui ai fait ce qu'il est aujourd'hui pour devenir chef de la CPC? Est-ce que il n'y a pas un paradoxe à ce niveau?
Il y a un paradoxe parce que moi je veux, enfin, parce que je suis en face des juristes, hein, je ne suis pas plus juriste que les deux. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, voyez-vous, si on lui reproche le fait de faciliter la tâche à Bozizé, il faut qu'on lui dise clairement quelle est l'infraction commise. Quelle est la nature de cette infraction? Ça, c'est dans. Et si c'est une infraction qui est sur le plan pénal, répréhensible, il faut qu'on lui dise quelle peine encourue. et qu'on nous dise également que si cette infraction est imprescriptible ou non. Au jour d'aujourd'hui, ni l'aveu la preuve n'est pas admise, encore moins sa responsabilité et la nature de l'infraction n'est pas connue. Oui. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que c'est un peu tiré par les cheveux.
Maître Arlette Sombodjibele, est-ce qu'un rapport peut servir d'une preuve irréfutable pour incriminer quelqu'un? Le rapport de terrain, par exemple celui des Nations Unies.
Nous ne serons jamais d'accord parce que monsieur Douy poursuit une démarche qui consiste à dédouaner une décision qui est dirigée politiquement, il faut le dire. Vous avez parlé tout à l'heure, parce qu'il a dit, il a avoué. Je suis d'accord avec M. Cresson. Mon client n'a jamais avoué être l'instigateur d'une CPC. Vous savez, nous savons tous autour de cette table qui se trouve en ce moment même en province et qui a revendiqué appartenir et même être au-dessus de cette
rébellion
nébuleuse, tout ce que vous voulez. À aucun moment, monsieur l'honorable Aboukarim Mekassoua n'a revendiqué appartenir à une rébellion. Il est bien le président d'un parti politique. Et étant parti politique, il a le droit d'avoir des positions. Vous avez des politiciens qui œuvrent dans le sens d'un apaisement. Hein? Et si contacter un président qui a été brutalement relevé de son poste, nous savons comment M. Bozizé a été relevé de ce poste-là, ce n'est pas un crime que je sache. À ce moment-là, tous ceux qui ont pris contact avec M. l'Ivoirien, la Gbagbo, lorsqu'il était encore, même lui étant en détention, seraient des criminels. Vouloir faire en sorte qu'il y ait un apaisement, et ça a toujours été le souci de M. Mekassoua, dans la population centrafricaine, hein, ce n'est pas se montrer criminel. Je reviens à ce que M. Douy disait tout à l'heure, hein, que non, on a le droit d'user de tout mode de preuve. Je cite la décision de la Cour qui disait qu'à défaut de preuves contraires, il s'expose aux interdits de l'article 28 alinéa 2 et 3 de la Constitution, ces interdits qui concernent l'exercice des fonctions publiques dans les institutions de l'État, pour ceux qui ont usurpé la souveraineté par violence, coup d'État, rébellion, mutinerie ou tout autre procédé non démocratique, cette usurpation constituant un crime imprescriptible. Nous sommes d'accord, mais que l'on me dise à quel moment l'honorable Mekassoua a revendiqué appartenir à une rébellion. Ceux qui sont dans les rébellions, nous les connaissons. Moi, je ne cite pas tous leurs titres là, mais nous savons que certains ont même été reçus à la présidence. Hein? Nous savons que certains ont même joui du statut. Je me rappelle à l'époque où nous ouvrions dans Ezingo Biani, nous avions condamné ce mélange malsain qui se faisait avec des gens qui étaient reconnus rebelles, mais qui, à un moment, sont devenus des partenaires de la paix. Aujourd'hui, vous avez entendu à cette époque-là le nom de M. Mekassoua comme étant l'un de ces rebelles qui voudrait bien devenir partenaire de la paix. M. Mekassoua n'a pas changé d'un iota. Il a toujours été un opposant politique, démocratiquement. Et la Constitution, son article 14, reconnaît la liberté de s'organiser pour, comme tout parti politique, la conquête du pouvoir. Vouloir conquérir le pouvoir, ce n'est pas en soi pour un parti politique un crime. C'est même le but de l'existence d'un parti politique.
Quelques secondes.
Voilà. Donc, aujourd'hui, je constate que la Cour renverse la charge de la preuve, qu'à défaut de preuves contraires. Mon client, M. Mekassoua, a protesté, a été reçu, s'est exprimé, nous avons répondu, mais on nous dit que non. C'est à nous d'apporter la preuve contraire. Mais en droit, la charge de la preuve incombe, en l'occurrence, au ministère public. On a cité aussi l'avis, hein, permettez,
oui,
l'avis de poursuite.
Oui, quelques secondes.
L'avis de poursuite a été cité, mais je vous dis qu'à l'heure où je vous parle, aucun avis n'avait jamais été brandi devant monsieur l'honorable Mekassoua. Les choses se sont faites tellement rapidement qu'on entend qu'après, il devait être soi-disant convoqué. Donc cette décision qui vise un avis de poursuite qui a été rejetée par le tribunal administratif, et nous l'avons fait remarquer que ce débat-là était clos parce que le ministère public a été incapable d'apporter les preuves. Et pourtant, ce rapport existait, M. Douy. Ce rapport n'a pas été brandi par le ministère public. Et pour cause, puisque le ministère public ayant à sa tête un membre du gouvernement qui, à Genève, a dit que non, mais c'était des fausses informations. magistrat de son état, Monsieur Djouba Yabazen, pour bien le citer, hein, et bien le ministre de la Justice, qui, à Genève, disait que ce rapport était un tissu de mensonges. Vous voyez,
oui,
voilà.
Monsieur Ndouye, est-ce que cette destitution de Abdou Karim Mekassoua est purement politique ou bien juridique?
Il faut en venir. Non,
politique dans quel sens? Moi, je crois aux institutions de la République, institutions juridiques. La Cour constitutionnelle est une institution spéciale chargée de se prononcer sur le contentieux électoral. Une décision politique, ça, je n'en sais rien. Qui est, elle dit le ministère public, à ma connaissance. Est-ce que devant la Cour constitutionnelle, il y a un ministère public?
Parce qu'on a parlé de l'avis de poursuite.
Non, devant la Cour constitutionnelle, il n'y a pas de ministère public. Il n'y a pas un procureur. Ce sont les conseillers qu'on appelle qui siègent ensemble. Et donc, il n'y a pas de ministère public.
Je sais très bien, M. Duy.
Voilà. Donc, vous le savez très bien. Donc, il ne faut pas dire le ministère public.
Mais l'avis de poursuite dont a fait état la Cour constitutionnelle.
Ça, c'est une autre situation. C'est un avis de poursuite qui a été dit. Est-ce qu'il y a. Je vous pose la question, il y a eu tentative de coup d'État ou pas le 13 janvier 2020?
Pas de la part de mon client, monsieur.
Mais non, je dis pas, moi je ne suis pas en train d'incriminer. J'ai dit, je n'incrimine pas votre client.
Il est incriminé.
Il peut être co-auteur. L'article 28 ne parle pas seulement aux auteurs principaux, fait allusion également aux auteurs et co-auteurs.
Mais moi-même,
de quelque manière que ce soit, il y a certains qui peuvent collaborer indirectement. Mais les preuves ont été apportées par Algoni.
Non, monsieur Duy, non.
Les preuves ont été apportées par M. Algoni, qui cite un rapport qui n'a pas été rédigé par le gouvernement, ni par M. Diabella, ni par M. Gressan. Le rapport a été rédigé par des personnalités extérieures à l'Église. C'est des officiers de droits de l'homme des Nations Unies.
Mais qui ne parlaient pas de ce qu'ils ont dit.
Mais non.
Ils ont été interrogés.
Est-ce que vous l'avez lu le rapport?
Bien sûr.
Moi, j'ai lu la méthodologie qu'ils ont explorée. Voilà. Comment on a procédé pour y arriver à l'élaboration du rapport? Ce sont des professionnels.
Quelqu'un
quand même.
Qui a appliqué au
rapport. Il ne faut pas leur dénier cette compétence.
Bien sûr. Lorsque ça arrange, ils sont très compétents.
Qui on arrange qui?
Non, l'on s'arrange le pouvoir.
Alors, vous voyez, dit, quand on dit, ouais, vous dites, nous sommes en fait, c'est une histoire de politique.
Absolument.
Qu'est-ce que le politique a à voir dans cette histoire où un individu se fait prévoir cet homme de droit devant la.
Monsieur Algoni est du parti du mouvement MCU.
Oui, monsieur Algoni est parti MCU. Est-ce que là, même en
dans
ce
les
moment,
dossiers.
En dehors de Algoni, le MCU a déjà une majorité confortable à l'Assemblée nationale?
Mais c'était le bon.
Est-ce qu'elle a vraiment besoin de la présence de Algoni pour l'instant? Là, à l'heure où je vous parle. Le parti MCU a déjà une majorité avec ses alliés confortable à l'Assemblée nationale.
Oui,
Est-ce que ce parti a-t-il vraiment besoin réellement avec d'une voix supplémentaire de M. Algoni?
Avec beaucoup de coups de farine.
Mais non, il n'y en a pas. Mais quand je dis il y a une majorité confortable, vous me comprenez?
C'est un candidat
qui voudrait simplement obtenir satisfaction auprès d'une juridiction. Mais il ne faut pas mêler la politique.
Je vous retire la parole et je repose la même question à vous, Maître Sombodibel. Est-ce que ce jugement rendu par la Cour constitutionnelle est politique ou juridique, comme vous l'avez dit?
Je vous dis qu'elle est éminemment politique.
Comment?
Pourquoi?
Oui, pourquoi?
Parce que M. Mekassoua a été destitué lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale. Jusqu'aujourd'hui, il s'est expliqué par ma plume devant la Cour des comptes pour bon nombre de choses qui étaient reprochées et si la Cour rendait sa décision, le disculperait. Vous comprenez? Donc ça a été raté sur ce plan-là. Cette décision n'est pas rendue. Elle devait l'être avant les élections. À chaque fois, elle était repoussée. Jusqu'aujourd'hui, elle n'est pas rendue. J'ai un certain nombre de dossiers que j'ai déposés pour des diffamations pour mon client. Ces dossiers-là ne sortent plus du bureau du ministère public. Enfin, concernant ce volet-là, je dis que c'est politique. Il faut user de cette arme-là, hein, même si on a beaucoup, comme dit M. Duy, on a une majorité confortable. Mais vous savez, le confortable ne se limite pas au confortable. On peut toujours avoir un peu plus, hein, quand on est gourmand. Vous savez, j'ai deux députés qui ont été élus sous la bannière Chemin de l'Espérance, qui aujourd'hui sont MCU. C'est du koudoufarisme. Vous voyez? C'est du koudoufarisme.
Ça, c'est leur choix.
Non, c'est vis-à-vis de la population c'est une infamie. Vous voyez, c'est une trahison. On vous élu pour un projet. On vous élu parce que celui qui est avec vous a une certaine censure et défend une certaine cause. Et ouais. Puis une fois que vous êtes élu, à ses frais bien entendu, parce que c'est fréquent ici, hein, celui qui paye l'avocat, celui qui poursuit les documents, puis à la fin, on se retire, on va s'installer à l'ombre du Tout-Puissant. C'est malheureux. Nous n'arriverons
on va
jamais
écouter Paul Cressin Benigna qui s'efface même de débat actuellement. Paul Cressin, sur cette question de maintenant, on s'inquiète de la politique qui s'ingère dans la justice. Est-ce que vous aussi, vous vous inquiétez au niveau du groupe de travail de la société civile?
Je vais répondre en disant ceci. Voyez-vous, la Cour constitutionnelle n'est pas qu'une institution éminemment juridique ou judiciaire. C'est une institution à la fois politique et une institution judiciaire. Et parfois, ces décisions peuvent être sujettes à débat, à discussion. C'est pour cela qu'on est là d'ailleurs. Même si ces décisions ne sont pas susceptibles de recours, mais cette décision peut faire l'objet de commentaires juridiques. Cette décision peut faire l'objet de débats, d'échanges politiques. Et donc, on ne peut pas écarter entièrement la piste politique. C'est d'autant plus que lorsqu'on s'intéresse à la personne de Mekasoa en faisant une analyse socio-historique de son parcours pendant les 5 dernières années, on se rend compte qu'il a quand même été l'objet d'un acharnement politique. La destitution de Mekasoa comme président de l'Assemblée nationale est un coup à la fois juridique mais aussi politique. Cette déchéance n'échappe pas à cette règle-là. Mais aujourd'hui, il faut le dire et le rappeler que le rapport du groupe d'experts des Nations Unies a permis d'avoir une jurisprudence au niveau de la Cour constitutionnelle. Et personne, je le dis, en termes d'institution judiciaire, ne peut ne plus évoquer cette jurisprudence si jamais on en vient à solliciter ce rapport pour ester en justice certaines personnes. Je le dis pourquoi? Parce que dans ce rapport, et Maître Sombo Dibila a effleuré la question, certaines personnalités ont été citées. Ma foi, ces personnalités aujourd'hui se trouvent du bon côté. Ce qui fait en sorte qu'elles ne sont pas inquiétées, mais ce qui leur a été reproché, c'est des infractions ou c'est des crimes qui sont imprescriptibles. J'aurais aimé et voulu et souhaité rencontrer demain monsieur le professeur Ndou Yabela autour de ce plateau pour qu'on en parle si jamais le cas advient.
Oui, mais cela aussi m'amène à poser cette question à monsieur Ndou. Ce même rapport qui cite Abdou Karim Mekasoa a aussi cité plusieurs autres personnalités politiques dont certains sont encore au pouvoir. Je veux par exemple parler du ministre de la Justice actuel. N'est-ce pas une justice à deux vitesses?
Bon, ça, c'est une question que vous me posez. Je n'ose pas me prononcer là-dessus, mais je voudrais tout simplement dire, ce n'est pas la première
fois. C'est quoi? Pourquoi?
C'est pas la première fois que la Cour constitutionnelle se fonde sur des rapports internationaux. Si vous vous souvenez, sous la transition, il y avait eu un cas similaire. Les acteurs politiques ayant géré la transition ont été exclus. J'ai même rédigé un article qui est en passe de publication dans une revue scientifique à la Sorbonne, intitulée « Inéligibilité et transition politique en Centrafrique, retour sur l'exclusion regrettable de certains candidats aux élections groupées de 2015 ». La Cour constitutionnelle, à l'époque, sur la base des recommandations du groupe international de contact, avait prononcé une décision en défaveur des acteurs qui avaient cessé d'exercer sous la transition. Ce n'est pas une première. Donc chaque fois, voilà, jurisprudence de la Cour constitutionnel, c'est de s'inscrire. Donc, le rapport tient compte de ce que les partenaires internationaux font. Et voilà. Alors, dans le texte, hein, l'article 106 de la charte constitutionnelle de transition ne prévoyait pas qu'on devait. Voilà, les acteurs politiques s'étaient rédigés au président de l'indicateur.
Mais sur le plan juridique, voilà, vous avez esquivé la question tout à l'heure.
Oui, mais non, j'en viens. Je dis, il appartient à la justice de faire son travail, tout simplement. Il appartient. Là, c'est une question qui relève. Et là, c'est la compétence de la Cour constitutionnelle. Monsieur Algoni a saisi la Cour constitutionnelle dans le cadre du contentieux électoral. Maintenant, vous posez le problème du gouvernement.
C'est non, pas le du gouvernement, mais c'est là, la justice.
Vous dites cela, il y a vraiment des gens qui sont inquiétés dans le rapport, mais il appartient. Bon, le ministre de justice lui-même, en vertu de l'article 23 de la procédure pénale, il peut saisir et dire
faire la dénonciation. Moi-même, je suis concerné par Dieu pour saisir le procureur de la République. Oui. Donc, voilà, c'est à la justice. Non, il se trouve que lui-même, il est dans ce cadre.
Oui, la juridiction pénale peut aussi s'auto-saisir.
Ah non,
la question.
C'est le procureur, c'est le ministre de la justice garde des Sceaux. Mais je cite l'article. L'article 23 du code de procédure pénale. Voilà, il peut faire des. C'est le ministre de la justice peut faire. Je le dis, elle est, madame, maître, elle est là. L'article 23 du code de procédure autorise le ministre de la justice à saisir les eaux et faire des dénonciations par rapport aux violations des.
Mais ce rapport.
Ne confondons pas les débats. Ici, là, il s'agit d'un contentieux électoral.
La parole, Armando.
Non, mais j'ai la parole.
Est-ce que vous pouvez permettre?
Je dis, ne confondons pas de débat. Parce que là, on est face à une juridiction spéciale.
Non, ça c'est une fuite en
là. Là, l'ordre judiciaire, quand je dis ça, c'est différent. Là, c'est une juridiction spéciale habilitée à interpréter la Constitution.
On écoute, on se prononce sur le contentieux électoral.
Restons dans ce domaine.
On ne risque pas, parce qu'on parle de ce même rapport qui cite les gens. Et donc, il va falloir qu'on écoute.
Moi, je voudrais savoir, il n'y a pas que le ministre qui peut déclencher l'action publique. Ce d'autant plus qu'il s'agit d'une affaire qui peut porter atteinte à l'ordre public. Et ça a été évoqué par les juges de la Cour constitutionnelle. Le procureur, en fait, les juridictions pénales peuvent s'auto-saisir, notamment le parquet. Pourquoi est-ce qu'on doit attendre uniquement le ministre de la Justice pour le faire? Moi, ça me gêne. Ça, c'est d'un. Les crimes, tels que ça a été dit clairement dans l'arrêt rendu par les juges de la Cour constitutionnelle, relèvent des crimes imprescriptibles. Donc, à partir de ce moment-là, pourquoi est-ce que nous devons attendre le ministre de la Justice? Est-ce que le procureur ne peut pas s'auto-saisir?
Je vais demander au procureur de le faire, c'est son travail.
Oui, on écoute Maître Sombo
Dibé. Il faut demander au procureur de faire son travail.
Monsieur Duy, ne rêvons pas. Vous savez très bien. Nous sommes en train de rêver, là. Vous êtes en train de parler comme si nous étions dans le meilleur des mondes, où les droits de l'homme, où tout est respecté, tout est parfait. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que vous avez reconnu que cette institution dont vous parlez comme étant technique pour les élections. Mais c'est comme ça que nous avons répondu. Nous avons répondu que concernant ces élections-là, le débat de l'éligibilité était clos. Elle a sauté à pieds joints sur des éléments qui n'ont plus rien à voir avec, je le répète, les preuves probantes dont elle se prévaut dans sa loi organique. Hein? Elle a digressé pour entrer dans le politique et pour dire que, non, la moralité douteuse de monsieur Mekassoa fait que bon, il se saisisse de cette affaire pour dire que non, il y a crime imprescriptible, mais pourtant on leur exige d'apporter une preuve tangible. Beaucoup de dossiers ont été rejetés par la Cour, je sais de quoi je parle puisque j'ai eu beaucoup de clients, hein, pour le fait que non, la Cour, même lorsqu'on leur montrait des images d'un candidat qui visiblement procéder à des fraudes, non, c'est pas assez documenté. Mais alors, là, sur la base de la déclaration d'un individu dont on connaît la moralité fort douteuse, je vais parler de M. Ali Darassa, on va dire que non, c'est très probant ça. Ah oui, M. Mekassoa est impliqué. Non, écoutez, reconnaissons sincèrement qu'il y a beaucoup de politique dans cette décision. Reconnaissons-le. Parce qu'en fait, on a tout fait pour arriver même là où je pense. Monsieur Algoni ne pensait pas arriver. Lui, cette décision lui a été servie. L'avis de poursuite, je vous l'ai dit, du 8 avril, c'était échu ça. Cet avis de poursuite-là, il y a eu un message porté qui renonçait à cette décision qui a été donnée par message porté d'interdire la sortie du territoire. Et tout ça a été gommé. Et aujourd'hui, pour pouvoir asseoir une décision malheureuse, moi je l'estime comme ça, c'est mon droit. Une décision qui veut servir et non pas la population, mais des personnes bien ciblées, on rend ces décisions-là. On utilise cet avis de poursuite.
Si la règle de droit a un caractère impersonnel et s'impose à tous, n'est-ce pas que la Cour a dit le droit?
Voilà.
La Cour a dit son droit. La Cour a dit son droit, sachant bien, justement.
A dit le droit, vous voulez
dire. A dit son droit, sachant bien qu'elle rend des décisions qui ne sont pas susceptibles
de recours.
Elle a dit le droit qui convenait le mieux pour faire déchéance à un candidat régulièrement élu. Moi, j'en reste là.
Oui. Bah, je voulais revenir pour dire, tout à l'heure, au début de mes propos, j'ai dit, ce n'est pas la. Pourquoi on dit un acharnement
contre le député Karim Mémé Kassoua. Il y a eu déjà des précédents. La Cour constitutionnelle a prononcé la déchéance du député de Nana Bakassa. Est-ce que ça suscite un débat? La Cour constitutionnelle a prononcé la déchéance du député de Bambari 3. C'est même rappelé dans les considérants.
Quels sont les
pourquoi
motifs?
On n'en a pas. Parce que ils ont les participants. On a dit pour Nana Bakassa, anti-Balaka. Pour Bambari, avec Ali Dara, etc. C'est une moralité douteuse. Encore, là, je reviens.
Ah,
et je
Ali
reviens
Dara,
sur cette histoire. Je dis sur une histoire de moralité douteuse.
Ali
et là,
Dara,
il faut dire non.
Non, le témoignage.
Maître, écoutez ce que je dis.
Oui, je vous écoute.
Les hommes politiques sont même victimes de leur propre turpitude.
Amen.
Les hommes politiques, y compris votre candidat, votre client. C'est eux-mêmes qui ont voté le code électoral. Je dis, moi, j'enseigne le code de droit constitutionnel. Il y a seulement, Beninga, trois critères d'éligibilité. Nationalité, âge et possession de droits civils et politiques. Lorsqu'il était question d'élaborer le code électoral, les députés sont allés en détail. Là, et là, je reviens à la question, et c'est là que je voulais insister sur ce que Beninga, il a parfaitement raison. Moralité douteuse n'est pas prévue dans la Constitution.
Il n'y a même pas un instrument d'appréciation.
Voilà, il n'y a pas un instrument d'appréciation. Ce n'était pas prévu dans la Constitution. Ce sont les députés. À l'époque, quand on a voté le code électoral, Karim Mikasso était président de l'Assemblée nationale. Moi, ça peut, je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire moralité? Et c'est ça, il est victime même de la loi que lui-même, il a votée.
Non, c'est pas lui-même, ça veut très
voilà.
Bien que...
Enfin, il était député de l'Assemblée en tant que président de l'Assemblée nationale.
Mais vous
et
savez
donc,
qu'il faut de majorité.
Moi, alors, vous voyez, c'est la question de moralité. Oh, il ne fallait pas insérer. C'est pour ça,
vous
voyez,
vous
j'avais fait,
bien qu'il faut de moralité.
J'avais fait une proposition
une majorité,
pour dire, il y a des textes,
Douille.
Tout ça qu'on doit réformer.
Absolument.
Mal
je
rédigé.
Je suis absolument d'accord avec vous.
Voilà, mal rédigé, il ne faut pas réformer. Et moi, je suis contre cette histoire de moralité à partir du moment où, parce que quand on possède des droits civils, ça veut dire, lorsqu'on n'a pas fait l'objet d'une condamnation, on a un casier judiciaire vierge, mais on est de bonne moralité.
Absolument.
Est-ce qu'on avait besoin de préciser encore la moralité dans les conditions d'éligibilité?
Mais on le...
Et c'est pour ça que je dis, mais les hommes politiques sont victimes de leur propre turpitude.
On...
C'est eux qui ont voté, et c'est un message qu'on lance aux députés, qu'il faudrait qu'ils fassent attention à l'élaboration, il faut qu'ils consultent.
On écoute,
consultent
maître,
les juristes, ils peuvent consulter les juristes professionnels, ils consultent les juristes de l'université, nous formons tout ce qu'on appelle la communauté des juristes, et que chacun doit apporter son point de vue pour l'élaboration de la règle de droit, qui a une valeur générale et impersonnelle.
30 secondes sur ce point.
En l'occurrence, voilà. Monsieur Douy, lorsqu'on parle de mauvaise moralité, de moralité douteuse, hein, quand on en parle comme ça, dans le vague, il faut des preuves. Ce sont ces preuves irréfutables qui viennent confirmer qu'une personne est de moralité douteuse. On dit c'est un voleur. Et vous avez un voisin qui vient, qui avec une preuve palpable, oui, tel jour, à telle heure, il m'a volé ça. Oui, c'est un voleur. Vous avez des preuves, oui. Mais là, vous avez un voleur qui crie
mais
au
non,
voleur.
La preuve,
mais,
c'est le coup d'État du 13 janvier 2021.
Mais où voyez-vous, monsieur Mekassoua? Par qui?
Et à la CPC.
Et monsieur
et avec les co-auteurs.
Et monsieur Mekassoua est de la CPC.
Mais on n'en sait rien. Il n'a jamais. Là, il a été impliqué.
Il ne l'a jamais
ça,
reconnu.
On en sait,
mais vous
je
ne
pense que là,
écoutez,
là.
Souffrez que les présomptions d'innocence puissent avoir un sens.
Présomption d'innocence,
parce
là, je suis d'accord.
En l'état actuel, monsieur Mekassoua est jugé.
Il n'a jamais été condamné.
Sans aucune preuve.
Oui. Mekassoua n'a jamais été condamné.
Voilà.
Et là,
jamais poursuivi.
En matière de,
s'il vous plaît,
en matière, lorsqu'on dit coup d'État, etc., et crime imprescriptible, est-ce que la Cour constitutionnelle doit attendre un jugement pour se prononcer sur le contentieux électoral?
Ah, ben, il y en aura beaucoup qui devront.
Mais non. Et ben voilà, donc, lorsque le crime est imprescriptible, ça veut dire qu'il n'y a pas de délai, pas de forclusion à tout moment. Lorsque la Cour constitutionnelle est saisie, automatiquement, elle
mais
peut
sans preuve,
la déance, décision sur la place
preuve,
des preuves écrites.
Sans aucune preuve, non, il n'y en a pas.
Donc, vous contestez le rapport des Nations Unies?
Absolument.
Il ne faut pas contester.
Absolument.
Mais je conteste, c'est une preuve.
Je la conteste autant que l'on conteste les autorités.
Et puis,
Oui, 30 secondes à vous pour le Christian Beninga et puis on boucle le débat.
Oui, puisqu'on veut boucler, moi je voudrais lancer un message à l'endroit de nos élites politiques dirigeantes.
C'est ça.
Pour dire ici que le droit, on le pratique dans une société. Et parfois, on tient compte également du contexte, notamment du contexte social, mais davantage et surtout du contexte politique. Et suivez mon regard, je ne vais pas être très bavard là-dessus. Le contexte politique aujourd'hui est tel que j'en appelle à la vigilance, à la tolérance et parfois même à la clémence. Je donne un seul cas. Voyez-vous, on a assisté à la promotion dans l'armée, ce qu'ils appellent généralement les tableaux d'avancement. Mais on a également reçu, 24 heures après, des textes qui laissent penser effectivement qu'il y a des mécontents. Et je pense que le contexte ne s'y prête pas. Il faut qu'on soit davantage regardant et vigilant sur la nature des décisions qu'on entend prendre dans ce genre de contexte. Je m'arrête.
Fin de ce débat politique de Radio Ndekelou qui a consacré à la destitution de l'ancien député de la 2e circonscription du 3e arrondissement de Bangui, Abdou Karim Kassoua. Merci à toutes et à tous d'avoir été des nôtres tout au long de ce Patara, une émission politique de Radio Ndekelou. Merci à vous, Paul Christian Beninga, d'avoir préparé ce rendez-vous. Paul Christian Beninga, merci.
Merci.
Merci à vous aussi, Maître Arlette Sambodibélé.
Merci.
Merci aussi
à vous. Merci Armando. Salut tous les auditeurs.
Voilà, la technique était assurée par Diane Stéphanie Bokoula. Rendez-vous à la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous, car on ne vit qu'une seule fois dans la vie. Au revoir.